Chapitre 4 Potoulet. Ce fut Julie, la curieuse, qui rompit le silence. Un rien met la puce à l'oreille de ces chères ambitieuses. Le temps de draper un châle ou de passer un fichu, les voilà parties pour le pays des rêves et en train déjà de bâtir le dernier étage d'un château en Espagne. « Qu'as-tu donc à me dire, André ? » demanda-t-elle. « Bien peu de choses, chérie, répondit le jeune ciseleur, sinon que je suis en disposition d'esprit singulière, et cela depuis quelques jours. En travaillant, je songe, la nuit, je ne peux pas dormir. » « C'est comme moi, murmura Julie. « Oui, comme toi, et c'est toi peut-être qui a commencé. » Julie ne répliqua point. Nos cœurs sont si près l'un de l'autre, poursuivit André, qu'il y a entre eux contagion de pensée. Je ne crois pas que tu puisses former un désir sans que j'aie le besoin de le satisfaire. Voilà qui est bien grave, dit Julie en se forçant à rire. Ai-je péché? Alors, gronde vite! Ils arrivaient au bout de la place des Acacias. Il y avait un banc de bois derrière lequel un réverbère pendait à deux arbres. André s'arrêta et s'assit, faisant avec son bras arrondi un dossier à la taille de Julie. « Je ne gronde pas, reprit-il, en baissant la voix et plus affectueusement. Est-ce-toi, est-ce-moi, qu'importe. Il se peut que nos deux pensées naissent ensemble. Ce qui est certain, c'est que nous sommes agités tous les deux et qu'il y a pour nous quelque chose dans l'air, comme si notre condition allait changer. « Dieu le veuille, fit étourdiment la jeune femme. » Il y eut un silence et Julie, toute repentante, ajouta « Mon André, tu sais, si je suis heureuse avec toi, je le sais, chérie, du moins je le crois, et si je ne le croyais pas, que deviendrais-je? Mais tu as du sang de grande dame dans les veines, et je t'en aime mieux pour cela. Cette toilette que tu regardes t'irait si bien. Il semble qu'elles vont à toi, ma femme, et que les autres te les ont volées. » Julie l'appela fou, mais elle lui donna son front à baiser. La lumière suspendue que la brise nocturne balançait éclairait par derrière les masses de sa riche chevelure et brillantait le duvet de son profil perdu. André Ménotte était à l'une de ces heures où l'extase trouve ouvertes toutes les portes du cœur, et Julie à l'un de ces moments où la beauté même embellit, rayonne d'étranges éblouissements. André regardait ses yeux, pleins de lueurs mystérieuses. Il lui semblait qu'on pouvait boire sur ses lèvres des ivresses parfumées. Les tièdes haleines de cette nuit d'été lui donnaient des frissons profonds où l'angoisse inexplicable se mêlait à d'indicibles voluptés. Julie, veloutant sa voix sonore et douce, demanda pour la seconde fois « André, qu'as-tu donc à me dire ?» « Tu es heureuse, répondit celui-ci, tu m'aimes, mais tu n'es pas dans ta sphère. Quand je pense à toi, je te vois toujours exilée. Les femmes de notre pays interrogent souvent la destinée. » Julie se mit dans l'ombre pour cacher sa rougeur. « Enfant chéri, poursuivit André, si le présent te plaisait, chercherais-tu l'inconnu à venir ? Ne peut-on demander aux cartes autre chose que la fortune ? Murmura la jeune femme. « Quoi donc ? Quand je te voyais passer là-bas, dans la campagne de Sartène, j'arrachais les feuilles des marguerites, une à une, et je disais, m'aime-t-il un peu, beaucoup ?» André lui ferma la bouche dans un baiser. « Passionnément, acheva-t-il, d'un accent presque austère. Vous n'avez pas besoin des cartes pour savoir cela, Julie, ni des fleurs. « C'est vrai, s'écria-t-elle, en jetant ses deux bras autour de son cou. J'essayais de mentir. Tu m'as dit « vous » et je suis puni. Non, ce n'était pas pour savoir comme tu m'aimes que j'ai fait les cartes. Il y a des jours où j'ai peur. Sommes-nous assez loin de ceux qui te haïssent ? » Puis, secouant sa tête charmante de cet accent résolu qui dit la vérité, « Mais non, poursuivit-elle, ce n'était pas cela, André, ou du moins c'était pour autre chose encore, c'était pour savoir si tu monterais un jour à ta vraie place. Est-ce que tu n'es pas trop au-dessous de ton état. Et que répondent-elles les cartes? Julie hésita, puis prenant gaillardement son parti, elle répliqua d'un ton de franche gaieté. Ce soir, les quatre as sont restés. Cela signifie, voiture à quatre roues, monseigneur, nous roulerons carrosse. Et que tu seras adorablement belle là-dedans, chérie, conclut André, avec un enthousiasme d'enfant. Écoute, poursuivit-il, qui ne risque rien n'a rien. Je suis 10 fois plus malheureux pour toi que pour moi. Il est temps de commencer la bataille. Si tu veux, nous allons partir pour Paris. Julie poussa un cri de joie et battit ses deux belles mains l'une contre l'autre. Puis, la réflexion venant, elle répéta un nom sans effroi. Pour Paris. Ce nom-là, pour une imagination ardente comme était celle de Julie, a presque autant de menaces que de promesses. « Il faut beaucoup d'argent pour réussir à Paris, » ajouta-t-elle. « Comptons, » dit André, qui l'attira contre lui. Les caresses de sa voix étaient de bon augure et semblaient dire « Tu vas bien voir que nous possédons un trésor. » Julie, Dieu merci, était tout oreille. « Nous avons commencé ici, reprit André Ménotte, avec les 3 000 francs qui étaient dans ma ceinture quand nous arrivâmes de Corse. Il est vrai que nous sommes à Caen et que nos débuts ont été plus que modestes. Mais si on n'a pas besoin ici de fonds considérables pour s'établir, les débouchés sont petits et rares. Je regarde notre pauvre succès comme un miracle. À Paris seulement, dans notre patrie, on peut arriver à la fortune. » Julie approuva d'un signe de tête. « L'armurier Gossin, poursuivit André, m'a offert hier 12 000 francs de nos marchandises et de mon achalandage. » Julie eut un mouvement de joyeuse surprise. « Il en donnera 15, ajouta André Ménotte, mais ce n'est pas tout. Monsieur Bancel, le banquier, va m'acheter le brassard. » « Lui, si économe. » C'est un ricochet de sa manie. Ce soir, après m'avoir parlé de sa caisse pendant 2 heures et comme j'allais me retirer, il m'a dit « Tenez-vous beaucoup à vendre comme cela des brassards ?» Je ne devinais pas où allait sa question. Il s'est expliqué, ajoutant « Bon engin pour les voleurs, cela, monsieur Ménotte. Vous comprenez bien qu'avec un homme qui vend des brassards, on n'est pas en sûreté dans une ville. » Et comme je ne saisissais pas encore, « Parbleu, a-t-il repris, avec vos brassards, il n'y a pas d'ingénieux système qui tienne. Que peut ma mécanique étreindre le bras d'un larron? Eh bien, si le larron a un brassard, il retirera son bras tout doucement et s'en ira avec mes écus, laissant son coquin de fourreau entre les griffes de mon système. » Julie éclata de rire bruyamment, et sa gaieté, comme il arrive aux heures de surexcitation, dura plus longtemps qu'il n'était à propos. « C'est vrai pourtant, dit-elle, que le brassard vaut une clé pour ouvrir la caisse de Monsieur Bancel. » « Je me suis engagé sur parole à ne plus vendre de brassard, » continua André, « moyennant quoi il m'achètera le nôtre au prix de 1 000 écus. Je le lui porterai dès demain matin, car il a grande hâte de jouer lui-même au voleur avec sa mécanique. Cela fera 18 000 francs, supputa Julie. André sortit de sa poche un portefeuille qu'il ouvrit et qui contenait 14 billets de 500 francs. Au moment où Julie se penchait pour les regarder, la nuit se fit brusquement et un gros rire éclata derrière eux. C'était le père Bertrand, l'éteigneur de réverbères, qui leur jouait ce tour. Voyant de loin les amoureux sur un banc à cette heure indue, le bonhomme s'était approché à pas de loup. Un guéluron qui aimait plaisanter avec des bourgeois. « Ah, part à trois, dit-il, si on casse la tirelire de monsieur Bancel !» Comment se fâcher et à quoi bon? Le brave père Bertrand eut un verre de cidre versé par la blanche main de Julie Ménotte et tout le monde alla se mettre au lit. 25 000 francs, Paris, la voiture promise par les quatre as. Notre Julie eut de beaux rêves. Elle dormait à 2 heures du matin, et quand tout entier faisait de même, y compris les 50 donjuans. Mais André veillait. Le sommeil appelé ne voulait pas venir. André se tournait et se retournait entre ses draps brûlants. Il avait le cœur serré, il souffrait. C'était un caractère doux, simple et tendre, mais c'était une intelligence d'élite. Sa vie, jusqu'alors, n'avait point manqué d'aventure, car il venait de loin, et il avait fallu tout un roman, sombre et mystérieux, pour mettre dans ses bras l'artisan, la fille déshéritée d'une noble race. Mais ce roman s'était noué en quelque sorte au gré de sa destinée. André et Julie avaient, dans leur passé, d'étranges périls évités, mais point de combat. André en était encore à éprouver sa force. À de certaines heures, il avait conscience de l'énergie indomptable qui était en lui à l'état latent et qu'aucun danger suprême n'avait encore sollicité. Alors il se redressait dans sa puissance inconnue, croyant rêver. Il défiait l'avenir, il appelait la bataille, car toute victoire a des couronnes. C'était un de ces instants. André rêvait de luttes futures et s'étonnait du mystérieux besoin qu'il avait de bondir dans l'arène. 2 heures sonnant, un homme traversa le pont de Vaucelles et s'arrêta au milieu, jetant un regard rapide devant et derrière lui. Les alentours étaient déserts. L'homme dépouilla lentement une blouse grise qu'il portait, la roula avec son bonnet de laine rousse et lança le paquet dans la rivière, après y avoir jeté un fort caillou. Puis, vêtu qu'il était d'un pantalon de cotonnade bleu, tête nue et en bras de chemise, il prit à travers champs sur la droite de la route d'Alençon. Il avait quelque chose dans son foulard. Ce n'était ni dur ni lourd, et cela ne le gênait point pour sauter les talus. Il marchait très vite quand il trouvait un couvert. En plaine, il allait les mains dans les poches, le dos voûté, les jambes flageolantes. Vous eussiez dit un paysan ivre qui a perdu le chemin de son logis. Cela se rencontre en Normandie comme ailleurs. Il faisait de longs détours pour éviter les métairies parsemées dans la campagne. Un chien qui hurlait au loin l'arrêtait tout tremblant. Ses yeux vifs et inquiets perçaient la nuit. Nous avons déjà vu M. Lecoq dans des situations bizarres et difficiles. Sa conversation avec Jean-Baptiste Schwartz, le mensonge de son rendez-vous amoureux, son voyage interrompu, le soin qu'il avait pris de cacher sa voiture et son cheval, son déguisement, son retour à la ville, son affût sous la porte cochère pour épier le passage du commissaire de police et surveiller la façon dont le même Jean-Baptiste Schwartz accomplirait sa mission, en apparence si futile. Enfin, sa visite au papa Lambert, le cabaretier du cul-de-sac Saint-Claude, nous ont mis surabondamment à même de deviner que M. Lecoq faisait un autre métier que celui de commis voyageur en coffre-fort. Dans ces diverses circonstances, qui toutes dénonçaient une bataille prochaine, la physionomie de M. Lecoq, pour nous, ne s'est point démentie. Nous avons vu un gaillard hardi, résolu froidement et portant dans l'accomplissement d'un périlleux projet une sorte de gaieté de mauvais goût. Tel était l'homme, en effet. Mais il y a l'affaissement qui suit la bataille gagnée, il y a surtout le poids énorme du butin conquis. Regardez autour de vous et voyez la différence profonde qui existe entre le combattant fanfaron, espérant tout, ne craignant rien, et le vainqueur qui a désormais quelque chose à perdre. Ce foulard, noué aux quatre coins, mis dans une balance, n'aurait pas enlevé le poids d'un kilogramme. Il écrasait pourtant M. Lecoq, au point que nous aurions eu peine à le reconnaître. Cet effronté luron de tout à l'heure, nous l'eussions retrouvé inquiet, craintif, malade. Son front avait de la sueur froide. De loin, il prenait les chaînes pour des gendarmes. Par moments, il parlait tout seul, il parlait de Jean-Baptiste Schwartz, du papa Lambert, du cabaretier du cul-de-sac Saint-Claude, et d'un autre personnage encore qu'il désignait sous ce nom bizarre, l'habit noir. Il disait « Une autre fois, je ne partagerai avec personne ». Et le bruit d'une branche agitée par le vent lui donnait le frisson, et le pas furtif d'un lièvre arrêtait le souffle dans sa poitrine. La nuit est pleine de ces voix qui font peur. Il y a surtout les rameaux de certains chênes qui conservent en plein été les feuilles de l'autre année. Quand la brise les touche, ils sonnent secs, comme si la marche d'un homme les écartait tout à coup. Monsieur Lecoq, nous pouvons l'affirmer, n'en était pas à sa première affaire, mais il n'avait que 22 ans, et nous le verrons mûrir. Il arriva au taillis sans avoir rencontré âme qui vive. Le cheval broutait, la carriole était à son poste. Monsieur Lecoq poussa un soupir de soulagement quand il eut repris possession de son pantalon à carreaux, de son gilet brillant et de sa fine jaquette. Le plus fort était fait, manifestement. Le sang-froid revenait. Ce fut d'un air déjà crâne qu'il posa sur l'oreille sa casquette de voyage. Quelques minutes après, Coquet, qui n'était, lui, ni plus ni moins fier qu'auparavant, galopait sur la grande route. À une demi-lieue de là, Monsieur Lecoq mit pied à terre. La nuit était encore épaisse, bien que l'Orient prit déjà cette teinte grise qui annonce l'aube. Il y avait à gauche du chemin une ferme où tout dormait. Monsieur Lecoq attacha une pierre à sa culotte de cotonnade bleue, roulée en paquet. Il franchit la murette de la cour et jeta son paquet dans le puits. Quand il eut accompli ce dernier soin et que Coquet reprit le galop, Monsieur Lecoq siffla, ma foi, un air de vaudeville en dénouant son fameux foulard. Jean-Baptiste Schwartz aussi suivait ce même chemin, à pied et livré à des réflexions mélancoliques. Il songeait à ses 100 francs et remettait en prose la fable du pot au lait de Perrette. De temps en temps, le pot au lait se cassait au choc d'une pensée triste. Ce mauvais plaisant de Lecoq s'était peut-être moqué de lui. Les voyageurs de commerce pratiquent la mystification avec frénésie pour compter ensuite leurs exploits à table d'hôte. 100 francs, rien que pour éviter les suites d'un rendez-vous galant. Il y a bien des grands seigneurs qui ne couvrent pas si fastueusement leurs équipés. 100 francs! Quel commerce allait-il établir? 100 francs comptants! Il se sentait monter au front la sereine fierté des capitalistes. En quittant son homonyme, le commissaire de police, Jean-Baptiste Schwartz avait flâné un petit peu le long des rues désertes. Il avait même regardé l'Orne qui passait sous le pont, poursuivant sa route vers la mer. Ainsi fait la monnaie disséminée dans les pauvres bourses. Elle va toute, mais toute par une pente naturelle et fatale, vers ces caisses opulentes, vastes rivières qui réunissent les filets d'or épars. En fait d'argent, Jean-Baptiste Schwartz était un penseur et un philosophe. Il avait deviné la loi de gravitation qui pousse les sous vers les louis. Il sortit à Caen vers minuit. 3 heures de ténèbres à tuer, c'est plus qu'on ne le pense. Jean-Baptiste Schwartz s'assit bien des fois sur le bord du chemin, agitant cette question suprême. Aurais-je mes 100 francs? N'aurais-je pas mes 100 francs? Il arriva au lieu du rendez-vous bien longtemps avant le moment fixé. Il attendit. À mesure qu'il attendait, l'espoir diminuait, car les Schwartz de provenance directe sont gens de bon sens avant tout, et la conduite de Monsieur Lecoq outrageait la vraisemblance. 100 francs. Pourquoi 100 francs? Moyennant un demi-louis, Monsieur Lecoq eût acheté de même la complaisance de Jean-Baptiste Schwartz. À supposer néanmoins qu'il s'agit d'une chose honnête, notons bien cela. Pour obtenir de Jean-Baptiste Schwartz une chose déshonnête, dans le sens légal du mot, 100 000 francs n'aurait pas suffi. Ce chiffre de 100 francs riait au nez du prudent et sage Alsacien. Ce ne pouvait être qu'une cruelle plaisanterie. Si vous saviez comme il avait peiné depuis qu'il était hors de Gubwiller, sans jamais réussir à mettre de côté les 20 larges pièces blanches qui composent cette somme de 100 francs. Et pourtant, si ce Lecoq était fou! Autour des Halles, à Paris, il y a des banquets en plein air qui sont des bienfaiteurs des 4 saisons. L'usure n'est qu'un mot selon les meilleurs esprits, et les timidités du code à son égard sont le symptôme de la dévotion moderne. Gêner le bon plaisir de l'or, si respectueusement que ce soit, c'est blasphémer un dieu, le dernier dieu, le seul dieu qui ait un peu d'avenir désormais. Si l'usure est bonne une fois, pourquoi en proscrire l'habitude? Le bien érigé en coutume n'en vaut que mieux, ce nous semble. Jean-Baptiste Schwartz se vit un instant philanthrope à la petite semaine, activant les transactions des innocents. Grâce à l'intérêt modeste de ces mouvements de fonds populaires, 100 francs deviennent aisément 1 000 écus en 12 mois. En 12 autres mois, 1 000 écus bien employés peuvent donner une cinquantaine de 1 000 francs, pertes comprises. Alors on quitte le carreau, on aborde l'escompte pour le petit commerce, vaste champ où chaque sou, coupé en 4, donne ses fruits et ses fleurs. Le million a mûri, on le cueille, et c'est une gracieuse chose que l'entrée dans le monde du million ignoré, tout jeune, ayant encore le duvet de la pêche. Mais ce Lecoq n'était pas fou. Mais pour avoir le million, il fallait les 50 000 francs, pour les 50 000 francs les 1 000 écus, pour les 1 000 écus les 20 pièces 200 sous de monsieur Lecoq. Hélas, hélas, le pot au lait dispersait encore une fois ses tessons dans l'ornière. Et Jean-Baptiste Schwartz s'éveillait, le cœur serré, se disant « Ah, voilà le jour qui vient, 3 heures doivent être sonnées, monsieur Lecoq s'est moqué de moi ». Un bruit de roue et le galop d'un cheval. Jean-Baptiste Schwartz se leva tout frémissant d'espoir. On entend de bien loin à ces heures solitaires où la campagne dort. Entre ce premier son et le moment où une silhouette de voiture apparut dans le gris, l'espérance de Jean-Baptiste Schwartz eut le temps de chanceler plus d'une fois, mais la voiture ne se montra pas plus tôt qu'elle était déjà sur lui. Elle allait à un train d'enfer. « Monte, Jean-Baptiste !» dit une voix connue. Une main vigoureuse le saisit en même temps par le gras du bras. C'est à peine si le petit Breton s'arrêta. Jean-Baptiste Schwartz, soulevé et cédant quelque peu, se trouva lancé au fond de la carriole pendant que le fouet claquait gaillardement et que Coquet, redoublant de vitesse, fuyait parmi les tourbillons de poussière.